إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. On continue donc ce soir la lecture de cette épître de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Tamimi rahimahullah ta'ala au sujet des conditions de la prière, ses piliers, ses obligations. On a vu la semaine dernière les premières conditions de la prière que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnées, qui sont l'islam, la raison et le discernement. Ensuite, on a mentionné la quatrième condition qu'il a mentionnée, qui est la levée de l'état d'impureté, c'est-à-dire par les ablutions. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, on a vu qu'arrivé à cette condition, il va détailler et mentionner également les conditions, les piliers et les obligations, ainsi que les annulatifs des ablutions. Et dans notre assise de ce soir, on va voir, incha'Allah ta'ala, les 10 conditions des ablutions que l'auteur, rahimahullah, a mentionnées. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur 2 points concernant le cours de la semaine dernière. Le premier point, il concerne la différence entre les conditions, les piliers et les obligations. On a vu donc que les conditions, c'est ce dont l'absence implique nécessairement l'absence de la chose, alors que sa présence n'implique pas forcément la présence de la chose pour laquelle elle est conditionnée. On avait donné l'exemple des ablutions. En l'absence des ablutions, la prière de la personne, elle n'est pas valide. Par contre, la présence des ablutions, c'est-à-dire le fait qu'une personne fasse les ablutions, ne veut pas forcément dire qu'elle va prier. Mais elle peut faire les ablutions tout simplement, par exemple, avant d'aller dormir, pour dormir en état de pureté. Donc ceci est la condition. Et ensuite, on avait mentionné la différence entre les piliers et les obligations. Et je reviens là-dessus, car ceci n'a pas été clair pour certaines personnes. Donc on a dit que le pilier et l'obligation, d'un point de vue général, ils ont le même jugement, c'est-à-dire qu'ils représentent les actes et les paroles essentielles de la prière, et que le fait de les délaisser volontairement, que ce soit le pilier ou l'obligation, cela rend la prière invalide. Cependant, la différence qu'il y a entre le pilier et l'obligation, c'est que le pilier, il est indispensable de l'accomplir, et rien ne peut le remplacer. C'est-à-dire que si tu oublies un des piliers de ta prière, il t'est obligatoire d'accomplir ce pilier. Alors que si tu oublies une obligation, alors celle-ci peut être compensée par les prosternations de distraction. Et on avait donné pour cela l'exemple de l'oubli du premier tashahhud. Si la personne se lève et commence la troisième unité de sa prière, alors qu'elle a oublié le tashahhud, alors elle continue sa prière, et une fois sa prière terminée, alors elle accomplira les 2 prosternations de distraction avant les salutations finales. Et ceci est le 2e point sur lequel je tenais à revenir. En effet, en réécoutant le cours de la semaine dernière, je me suis aperçu que j'avais fait un lapsus à ce moment-là et que j'ai dit que les prosternations devaient être accomplies après les salutations. Et ceci est un lapsus et une erreur de ma part. Et ce qui est juste est que ces prosternations doivent bien être accomplies avant les salutations finales dans le cas de l'oubli du premier tashahhud. Donc lorsque tu oublies une obligation, il t'est possible de la compenser par les prosternations de distraction. Et ceci n'est pas le cas pour le pilier, qui lui doit dans tous les cas être rattrapé. Car la prière, elle ne peut pas être valide sans l'accomplissement de l'ensemble de ses piliers. Donc ceci était une petite parenthèse concernant le cours de la semaine dernière. On va donc revenir à la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala, qui a dit « Al-shartu al-rabi' raf'u al-hadath » وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث وشروطه عشرة. Il dit donc la quatrième condition, c'est-à-dire la quatrième condition de la prière, c'est la levée de l'état d'impureté, al-hadath, qui a lieu par les ablutions connues et qui sont rendues obligatoires par al-hadath. Donc al-hadath, en arabe, il désigne l'état d'impureté. Et on a vu que l'état d'impureté, il est de deux sortes. Il y a l'état d'impureté majeur, qui est levé par les grandes ablutions, al-rusl, et l'état d'impureté mineur, qui est levé par al-wudu, les ablutions. Et c'est de celui-ci qu'il est question ici. Donc il dit, rahimahullah, وَشُرُوتُهُ عَشَرَةً. Et ces conditions sont du nombre de 10, c'est-à-dire les conditions des ablutions. Et il va les mentionner. Il dit, rahimahullah, al-islam, wal-aqlu, wal-tamyiz. Donc les trois premières conditions des ablutions, ce sont tout comme pour la prière, l'islam, la raison et le discernement. Et on a déjà parlé de ces trois conditions au sujet de la prière, et ce qui a été dit la semaine dernière à ce sujet est également valable ici. Donc la quatrième condition des ablutions, il dit, rahimahullah, wa-niyya, c'est l'intention. C'est-à-dire que la personne, elle fait les ablutions avec l'intention de lever l'état d'impureté. Et l'intention, elle se trouve dans le cœur, et elle ne doit en aucun cas être prononcée par la langue. Et Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il nous apporte un bénéfice très important au sujet de l'intention. Il dit rahimahullah, selon le sens de sa parole, que l'intention, elle est subordonnée à la connaissance. Donc à partir du moment où le serviteur, il sait ce qu'il est en train de faire, alors il en a inévitablement une intention. Et il est inimaginable qu'une personne ait connaissance de ce qu'elle fait sans en avoir l'intention. Donc ça, c'est un bénéfice important. En effet, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par les insufflations à ce sujet, par les waswas. Et tu les vois accomplir les ablutions à plusieurs reprises. Ils font cela sous prétexte qu'ils n'auraient pas eu l'intention. Alors qu'en réalité, à partir du moment où tu te lèves et te diriges vers la salle de bain, au moment de la prière, et que tu commences à laver tes mains, puis rincer ta bouche et ainsi de suite, parmi les gestes des ablutions, si tu es doué de raison, tu sais ce que tu es en train de faire, alors tu as inévitablement eu l'intention de faire tes ablutions. Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit l'intention, c'est quelque chose de simple. C'est la délaisser qui serait difficile, car il est impossible d'accomplir un acte sans intention. Donc l'intention, c'est la ferme volonté que tu as à accomplir un acte. En l'occurrence ici, les ablutions, et c'est une condition des ablutions. Il dit, rahimahullah, وَاسْتِسْحَابُ حُكْمِهَا بِأَلَّا يَنُوِيَ قَطْعَهَا حَتَّى تَتِمَّ الطَّهَارَ. Donc la cinquième condition, c'est le fait que perdure le jugement de cette intention. C'est-à-dire qu'il n'est pas l'intention de couper les ablutions avant d'avoir terminé de se purifier. Et ceci ne veut pas dire qu'il est indispensable que la personne se remémore son intention tout au long des ablutions. Ceci n'est pas une condition. Ceci est simplement recommandé. Que la personne, au moment où elle fait ses ablutions, a la conscience qu'elle fait cela pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle lave ses membres de cette manière, à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci n'est pas une condition de validité des ablutions. Mais ceci est recommandé. Et si la personne fait cela, qu'elle a cela en tête, qu'elle se purifie pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elle lave ses membres de cette manière, à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors son œuvre, elle sera plus méritoire en termes de récompense. Cependant, ceci n'est pas une condition. Mais la condition, c'est que tu n'aies pas l'intention d'arrêter de faire les ablutions. On va donner un exemple pour que ce soit plus clair. Si une personne a commencé à faire ses ablutions, elle est en train de laver son visage, et elle entend par exemple son téléphone sonner. Alors, elle décide d'arrêter les ablutions et d'aller répondre au téléphone. Elle marche par exemple jusqu'à sa chambre, et au moment où elle arrive vers le téléphone arrête de sonner. La personne a raccroché. À ce moment-là, si elle retourne dans la salle de bain, est-ce qu'elle peut continuer ses ablutions là où elle s'est arrêtée? La réponse est non. Pourquoi? Car elle a eu l'intention d'arrêter ses ablutions. Par contre, si la personne n'a pas l'intention d'arrêter de faire ses ablutions, son téléphone sonne, elle se tourne simplement pour regarder qui est en train de l'appeler, sans avoir l'intention d'arrêter de faire les ablutions. Alors dans ce cas-là, elle a rempli cette condition qui est que son intention perdure. Et l'hésitation, si la personne est hésitante, par exemple elle entend sonner à la porte, elle hésite à aller répondre ou de terminer ses ablutions. Alors ceci n'annule pas les ablutions, mais il est indispensable pour qu'elles soient annulées d'avoir la ferme intention, la ferme volonté d'arrêter de faire les ablutions, comme dans le premier cas que l'on a mentionné. Ensuite il dit, rahimahullah, وَانْقِطَاعُ مُوْجِبُ, et que cesse ce qui rend obligatoire les ablutions. Et ceci est la sixième condition des ablutions. C'est-à-dire que cesse la chose qui a rendu obligatoire les ablutions. Par exemple, lorsque la personne est en train d'accomplir ses besoins, elle ne commence pas ses ablutions alors qu'il y a encore une chose qui est en train de sortir d'un de ses orifices. Mais elle attend de terminer d'accomplir ses besoins, puis après cela, elle commence à faire les ablutions. Quant à ce qui rend obligatoire les ablutions, on le verra dans un prochain cours, inshallah, car comme on l'a dit, l'auteur, rahimahullah, il a mentionné les annulatifs des ablutions. Il dit ensuite, rahimahullah, وَاسْتِنْجَاءُنُ أَوْ إِسْتِجْمَارٌ قَبْلَهُ. Donc la septième condition, c'est الْإِسْتِنْجَاء ou الْإِسْتِجْمَار avant les ablutions. الْإِسْتِنْجَاء, c'est le fait de nettoyer ce qui est sorti des deux orifices lors de l'accomplissement des besoins avec de l'eau. Quant à l'istijmar, c'est le fait d'essuyer les parties avec un objet pur, permis et purificateur, à l'exemple des cailloux ou ceux qui y ressemblent, comme le papier ou autre chose qui peuvent être utilisés pour cela. Donc il dit, rahimahullah, parmi les conditions des ablutions, il y a l'istinja ou l'istijmar avant les ablutions. C'est-à-dire, si la cause de tes ablutions et que tu as accompli tes besoins, et qu'il y a une chose qui est sortie d'un des deux orifices, comme l'urine ou les selles. Quant au fait d'avoir un vent, ceci ne nécessite ni l'istinja, ni l'istijmar. Et il faut savoir que ceci est une chose sur laquelle sont unanimes les gens de science. En effet, à titre d'exemple, Nawawi rahimahullah ta'ala, il a dit, les savants sont unanimes concernant le fait qu'il n'est pas obligatoire d'accomplir l'istinja suite à un vent ou au sommeil. Et l'imam Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, il a dit dans son livre Al-Mughni, « Et celui qui a dormi ou qui a eu un vent n'a pas affaire à l'istinja, n'a pas nettoyé ses parties intimes avec de l'eau, et nous ne connaissons à ce sujet aucune divergence. » Et Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dans son livre Al-Mulakhas Al-Fiqhi, il a attiré l'attention sur cela. Il dit en résumé, selon le sens de sa parole, il y a une chose sur laquelle il est obligatoire d'attirer l'attention. C'est que certaines personnes parmi les gens du commun, ils pensent que l'istinja, cela fait partie des ablutions, le fait de se nettoyer les parties intimes avec de l'eau. Et lorsqu'il va pour faire les ablutions, il commence par aller faire l'istinja, même s'il n'a pas fait ses besoins, et que la dernière fois qu'il a fait ses besoins, il s'est déjà purifié avec de l'eau. Et ceci est une erreur, car l'istinja, il ne fait pas partie des ablutions, mais il a lieu lorsque tu as terminé de faire tes besoins. Et il n'y a pas besoin de te renettoyer les parties intimes avec de l'eau alors que tu n'as pas fait tes besoins et qu'il n'y a aucune impureté qui est sortie d'un des deux orifices. Donc ceci est le sens résumé de la parole de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Donc lorsque le Cheikh, rahimahullah ta'ala, ici, il dit qu'il fait partie des conditions, des ablutions, de faire al-istinja ou al-istijmar avant de faire les ablutions, c'est-à-dire si la cause de tes ablutions, c'est le fait que tu viens d'aller aux toilettes, que tu viens de faire tes besoins. Mais si lorsque tu as fait tes besoins, tu t'es déjà nettoyé les parties intimes en faisant al-istinja avec de l'eau ou al-istijmar avec des pierres ou du papier ou autre, alors dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de renouveler cela. Il est important de souligner ici que l'istijmar, qui consiste à se nettoyer les parties avec trois cailloux ou trois morceaux de papier ou autre, ce qui est visé par cela, c'est d'enlever le corps même de la pureté. Mais il se peut qu'il reste certaines traces de celle-ci, comme l'odeur ou autre. Malgré cela, l'istijmar, il est suffisant et il n'est pas obligatoire d'ajouter à celui-ci un lavage avec de l'eau. En effet, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, faisaient l'istijmar, et il n'est pas rapporté d'eux qu'ils ajoutaient à cela un lavage avec de l'eau. Également, il est important de souligner que l'istijmar, il est permis de manière générale, et pas seulement en cas de nécessité. En effet, il y a certaines personnes qui pensent qu'ils ne peuvent accomplir l'istijmar que s'ils ne trouvent pas d'eau. Et ceci est une erreur. En effet, il est permis à la personne de faire l'istijmar, de se nettoyer avec des pierres ou avec des papiers ou ce qui est semblable, même en présence d'eau, sans faire suivre cela par un lavage avec de l'eau. Et c'est ainsi que faisaient les compagnons radiyallahu ta'ala anhum à leur époque. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَتَهُورِيَّةُ مَاءٍ وَإِبَاحَتُهُ. La huitième condition, c'est que l'eau soit pure et permise. Donc ces deux choses ici, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il les a réunies en une seule condition. En effet, comme on va voir, il a mentionné après cela deux autres conditions. Donc il dit que l'eau soit pure et permise. Concernant la pureté de l'eau, les gens de science rahimahumullah ta'ala ont mentionné que l'eau est de deux catégories. L'eau pure et l'eau impure. L'eau pure, c'est celle qui n'a pas été altérée ni dans son goût, ni dans son odeur, ni dans sa couleur, par une quelconque impureté. À l'exemple de l'eau de la pluie, la neige fondue, l'eau des rivières, de la mer, et ainsi de suite. Toutes ces eaux sont pures tant qu'elles n'ont pas été altérées dans l'une de leurs propriétés par une impureté. Et donc on en déduit que l'eau impure, c'est celle qui a été altérée dans l'une de ces trois propriétés, ou bien dans son goût, ou bien dans son odeur, ou bien dans sa couleur, par une impureté. Par exemple, de l'eau qui a été mélangée avec de l'urine. Si cette urine a altéré l'odeur de l'eau, ou sa couleur, ou son goût, alors dans ce cas, l'eau elle devient impure et il n'est plus permis d'accomplir ses ablutions avec. Car l'eau par laquelle on se purifie, c'est l'eau qui est pure. Et certains savants ont mentionné que l'eau est de trois catégories. Ils ont dit, il y a l'eau impure, qui est celle que l'on a mentionnée, qui n'est utilisée ni pour la purification, ni pour la boire. Ensuite, ils ont dit la deuxième catégorie, c'est l'eau pure. C'est celle que l'on utilise dans autre chose que l'adoration. C'est-à-dire qu'elle n'est pas impure, mais tu ne peux pas faire les ablutions avec. Et ils ont dit celle-ci, c'est l'eau qui a été altérée par une chose pure. Comme par exemple de l'eau avec du savon. Il y a de la mousse dans l'eau, le savon a altéré le goût de l'eau. Ils ont dit cette eau, elle est pure, mais elle n'est pas purificatrice. Et il n'est pas permis de faire des ablutions avec. Et la troisième catégorie d'eau, donc, ils ont dit, c'est celle qui est purificatrice et que l'on utilise pour la purification. Mais il faut savoir que l'avis le plus juste, comme l'a souligné Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, et parmi les contemporains, le grand savant Abdurrahman al-Sa'di, ainsi que son élève, le Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, et d'autres que ont soutenu que l'eau n'est que de deux catégories, pure et impure. Quant à l'eau qui était altérée par une matière pure, comme dans l'exemple que l'on a donné avec le savon, alors cette eau, elle est pure et purificatrice, et il est permis de faire ses ablutions avec tant que c'est encore de l'eau. C'est-à-dire tant que cela s'appelle encore de l'eau. C'est-à-dire que si tu mélanges à de l'eau une chose qui va lui faire perdre son nom, comme par exemple un sachet de thé. Si tu mets un sachet de thé dans un verre d'eau, on ne dira plus que c'est de l'eau, mais on dira que c'est du thé et à partir de ce moment-là, il n'est plus permis de se purifier avec. Il dit ensuite donc, dans la huitième condition, que l'eau soit pure et permise, c'est-à-dire que ce soit de l'eau licite, et non pas de l'eau qui a été obtenue de manière illicite, comme par le vol par exemple. C'est-à-dire que certains savants considèrent que si un homme vole par exemple une bouteille d'eau, alors il n'a pas le droit de se purifier avec. Et s'il fait ses ablutions avec cette eau, alors ses ablutions ne sont pas valides. Cependant, les gens de science ont divergé sur cette question. Et la majorité des savants ont soutenu que l'avis le plus juste est que ceci n'est pas une condition pour la validité des ablutions. Cependant, ceci est une obligation. C'est-à-dire qu'il est obligatoire pour la personne d'utiliser de l'eau licite pour ses ablutions. Cependant, si elle utilise de l'eau illicite, de l'eau qui a été volée par exemple, alors ses ablutions elles sont valides, mais elle a un péché. Pourquoi ? Pour avoir utilisé de l'eau qui est volée.
Et les gens de science ont soutenu que cet avis est le plus juste, car l'interdiction d'utiliser une chose qui a été obtenue illicitement, ceci n'est pas spécifique aux ablutions, ni spécifique à la prière. Mais de manière générale, il est obligatoire pour l'homme de ne pas utiliser des choses qui ont été obtenues de manière illicite, que ce soit pour les ablutions ou pour autre chose. De plus, il n'y a aucun texte clair et authentique soulignant que ceci soit une condition de validité des ablutions. Et cette divergence, elle existe également concernant celui qui prie, par exemple dans un vêtement volé, ou dans une terre qui a été obtenue de manière illicite. Tout ceci sont des questions au sujet desquelles les gens de science ont divergé. Et la majorité des gens de science ont soutenu que ceci n'invalide pas la prière et les ablutions. Cependant, la personne a un péché pour l'utilisation de cette chose qui a été obtenue de manière illicite. Il dit ensuite, rahimahullah, وَإِزَالَةُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ. La neuvième condition des ablutions, c'est le fait de retirer ce qui empêche l'eau d'atteindre la peau. En effet, il est obligatoire lorsque tu fais tes ablutions que l'eau puisse atteindre ta peau. De ce fait, si tu as sur toi des choses qui empêchent l'eau d'atteindre ta peau, comme de la peinture par exemple, pour ceux qui travaillent dans le bâtiment, se retrouvent au moment de la prière avec de la peinture sur ses mains par exemple. Il est obligatoire de retirer tout ce qui empêche le passage de l'eau sur les membres des ablutions. Et ceci est une obligation. Quant à ceux qui n'empêchent pas le passage de l'eau, mais qui a simplement modifié la couleur de la peau, à l'exemple du hanna, alors ceci ne nuit pas et il n'y a pas de gêne en cela. Et parmi les choses qui empêchent que l'eau atteigne la peau lors des ablutions, il y a ce que certaines femmes utilisent, qui est le vernis à ongles. Et il faut savoir qu'il est interdit de faire ses ablutions avec ce vernis sur les ongles. En effet, celle qui fait ses ablutions, alors qu'elle a du vernis sur ses ongles, alors l'eau, elle ne va pas atteindre l'ensemble des membres des ablutions. En effet, il y aura une partie de ses doigts qui n'auront pas été touchés par l'eau. C'est pour cela qu'il est obligatoire pour la femme musulmane de retirer ce vernis avant de faire les ablutions ou avant de faire le grand lavage. Et concernant l'utilisation de ces vernis de manière générale, il faut savoir que les gens de science ont prononcé différentes paroles à ce sujet. Le cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala, il dit ici dans son explication que si la femme l'utilise, alors il est obligatoire pour elle de l'enlever avant les ablutions. Cependant, elle ne peut l'utiliser que si son époux considère que ceci fait partie des choses qui embellissent la femme. Et si ce n'est pas le cas, alors elle ne doit pas l'utiliser. En effet, la femme, elle s'embellit pour son époux et non pas pour autre que lui. Donc si lui considère que ceci ne l'embellit pas, alors elle ne doit pas l'utiliser. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit dans certaines de ses fatawas que ce qui est appelé vernis à ongles, il n'est pas permis pour la femme de l'utiliser si elle doit prier, car il empêche l'eau de passer lors de la purification. Ensuite il dit, mais si elle ne prie pas, comme lorsqu'elle est en état de menstrue, alors il n'y a pas de mal à l'utiliser, sauf si cet acte fait partie des spécificités des femmes mécréantes. Alors dans ce cas-là, il n'est pas permis de l'utiliser pour ce que cela comporte comme ressemblance aux mécréants. Et le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit dans une de ses fatawas, Al-Hanna, il est meilleur que le vernis à ongles. Et le vernis à ongles, il est meilleur et préférable de le délaisser. Et il dit également, il est obligatoire pour la femme de ne le mettre que si elle est en état de pureté, si cela est indispensable, tout en sachant que le délaisser est préférable de manière absolue. En effet, nombre de femmes sont laxistes à ce sujet et cela peut empêcher l'eau d'atteindre ses membres lors des ablutions. Il dit ensuite, rahimahullah, c'est pour cela qu'il convient de totalement le délaisser. Et le grand savant du hadith, l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit dans son livre au sujet des bienséances du mariage, « Et cette habitude est une habitude mauvaise qui provient des femmes perverses d'Europe et qui s'est propagée chez beaucoup de musulmanes. » Ensuite, il a mentionné qu'il considérait cela comme une assimilation et une ressemblance aux femmes mécréantes qui est interdit dans de nombreux hadiths et parmi ceux-là, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum » Quiconque s'assimile à un peuple en fait partie. Donc ceci était une petite parenthèse concernant les vernis à ongles qui sont utilisés par beaucoup de femmes et comme vous le voyez, à travers les fatwas des gens de science, de manière générale, on voit que leurs paroles se rejoignent toutes quant au fait qu'il est préférable et meilleur pour la femme de le délaisser. Et on voit également que Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a mentionné que si cela fait partie des particularités des femmes mécréantes, alors il n'est pas permis de l'utiliser. Et on a vu à travers la parole de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, que c'est ceci qui est apparent concernant l'utilisation de ces vernis. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, il dit, rahimahullah, « وَدُخُلُ وَقْتٍ عَلَى مَنْ حَدَثُهُ دَائِمٌ لِفَرْضِهِ » La deuxième et dernière condition des ablutions, c'est qu'entre le temps de prière pour celui dont l'état d'impureté est constant, c'est-à-dire qu'il doit faire ses ablutions, à chacune de ses prières obligatoires. Lorsque rentre le temps d'une prière obligatoire, celui qui souffre, par exemple, d'incontinence urinaire, c'est-à-dire la perte incontrôlable et involontaire d'urine, ou la femme qui souffre de métrorragie, dont le sang coule constamment, alors il est obligatoire pour eux d'attendre que le temps de prière entre, et une fois le temps de prière entré, alors ils font les ablutions, et ce pour chaque prière obligatoire. Une fois qu'ils ont fait les ablutions, après le temps de prière entré, ils peuvent accomplir la prière obligatoire, et ce qu'ils veulent comme prière surérogatoire, ou chose nécessitant les ablutions. Mais leur obligation est de faire les ablutions à chaque prière obligatoire, une fois que son temps est entré. Et il n'est pas permis de faire les ablutions avant l'entrée du temps de prière. Et la preuve de cela, c'est le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, d'après Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, qui a informé au sujet de Fatima, bint Abi Hubaysh, radiyallahu ta'ala anha, qui a interrogé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de l'istihada, au sujet des métrorragies. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a ordonné d'accomplir ses ablutions pour chaque prière, c'est-à-dire pour chaque prière obligatoire. Ceci sont donc les 10 conditions des ablutions et on verra dans l'assise de la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala, les piliers des ablutions. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيراً